Bonjour et bienvenue Guillaume d'Abbeville sur la web radio d'Enfants du Mékong. Alors Guillaume, tu es directeur de l'association Enfants du Mékong depuis quelques années. Tu es aussi père de quatre enfants. Et aujourd'hui, merci de nous accorder de ton temps pour nous parler de ce que fait l'association sur le terrain suite à l'urgence du Covid. Est-ce que tu peux nous dire, Guillaume, parce que quand on lit la presse, on a l'impression que le virus a surtout touché l'Europe, les USA. Comment ça se passe dans les pays d'action d'enfants du Mékong?
Alors bonjour à tous, merci Guillaume de m'accueillir. Avant de répondre à cette question, je voudrais juste dire que chacun de nous doit être touché de près par ce virus et qu'on a évidemment, avec toute l'équipe d'Enfants du Mékong, on a une pensée pour chacun d'entre vous qui nous écoutez. Et beaucoup d'entre vous nous ont fait part de grands témoignages d'amitié. Vous savez que cet esprit de famille qui nous anime chez Enfants du Mékong. Et on voudrait juste dire à ceux à qui nous ne sommes pas assez ou encore manifestés. Pardonnez-nous de ne pas avoir pris ce temps. Nous essayons d'avoir du temps pour chacun et en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous serons toujours très heureux de vous entendre en attendant de vous revoir. Alors, sur le virus qui a touché l'Europe et les USA et comment ça peut se passer dans les pays d'action d'Enfants du Mékong en Asie du Sud-Est. Écoutez, la première chose, c'est que l'épidémie en Asie du Sud-Est est assez relative en termes statistiques. C'est-à-dire qu'elle est arrivée en Asie du Sud-Est plus tard qu'en Europe. De plus, nos enfants, les enfants du Mékong ou tous les enfants d'Asie ont été un peu moins impactés parce que c'était pendant une période de vacances, de grandes vacances pour quatre de nos sept pays d'action, avec des peuples assez habitués et résilients à traverser des crises. Et ça, c'est dans des pays à pouvoir dur, hein. Et pour beaucoup d'entre eux, ils portent déjà des masques. Ils avaient eu l'expérience aussi du SRAS il y a quelques années. Et le confinement est accepté soit sans problème par la résilience que représentent ces peuples, soit par la force. Hein. Donc il y a une forme de docilité aussi. Ce qu'il y a à noter aussi, c'est qu'il y a peu de communication et de chiffres réels. Ce qui est sûr, c'est que ces pays révèlent peu de cas de Covid et peu de morts. Par exemple, le Vietnam et le Cambodge affichent zéro mort. Maintenant, on peut pas tout savoir, voilà. Et la question, c'est s'il n'y a pas de mort du Covid, il y a des victimes collatérales de ce virus.
Oui,
Ce qui est
c'est-à-dire parce
intéressant
que
aussi.
ces pays ont donc confiné toute leur population, ce qui a permis de limiter la propagation du virus, mais ce confinement a des conséquences très néfastes pour les populations, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu des confinements et des stratégies complètement différentes qu'en Europe et même en fonction des pays. Il y a eu la fermeture des frontières, la fermeture des écoles et des foyers d'accueil, donc les enfants étaient tous rentrés chez eux. Et il y a eu des stratégies de confinement complètement différentes, hein. C'est-à-dire du confinement, ce qu'on appelle externe au Vietnam, avec une fermeture des frontières et uniquement des écoles, hein. C'est un des premiers pays à fermer les frontières avec la Chine, alors que c'est un acteur économique avec la Chine très important. Ou un confinement interne extrêmement fort, hein, limite une loi martiale, comme aux Philippines, dans les grandes agglomérations, comme Manille, fermer une mégalopole comme Manille, où plus d'une personne sur deux vit dans des bidonvilles, imaginez les conséquences que ça peut avoir. Alors effectivement, les risques pour nous identifiés, c'est que la fermeture des écoles et le confinement parfois extrêmement fort dans ces pays touchent énormément les populations dans les villes, mais pas uniquement. Et si nous, on s'occupe aussi des enfants, hein, si les enfants pauvres n'ont pas peur du virus, ils ont vraiment peur, et les familles pauvres ont peur de mourir de faim. Le manque de nourriture et de produits de première nécessité est lié au fait que beaucoup d'enfants recevaient un repas dans les écoles, hein, par exemple dans les écoles d'affection, c'est-à-dire les écoles privées pour les minorités ethniques au Vietnam, ou certaines écoles aussi pour les bidonvilles, où c'est le seul repas de qualité qu'ils peuvent recevoir. La deuxième chose, c'est puisque beaucoup de familles liées au confinement ont perdu leur emploi, par exemple des emplois dans les bidonvilles, un chauffeur de tricycle, c'est-à-dire de tricycle à moteur, si vous voulez, de petites moto-taxi ou de tuk-tuk, ils ont tous perdu leur emploi, ils ont plus de source d'argent, ils ont plus de quoi s'acheter les produits de première nécessité. Et la première nécessité pour un Asiatique, c'est le riz. 80% de l'alimentation en Cambodge, pour une famille pauvre, c'est du riz. Et puis, le troisième risque, après nourriture et perte d'emploi, c'est le décrochage scolaire, évidemment, pour nos jeunes, où on parle beaucoup de e-learning, d'accessibilité par Internet. Mais comment faire pour des enfants qui habitent dans une maison en bambou, qui n'ont pas de réseau ou qui n'ont pas les dispositions techniques, c'est-à-dire des smartphones, etc., ou qui sont accaparés par le travail au champ parce qu'ils retournent chez leurs parents qui leur disent bah, viens à la rivière m'aider.
Donc pour les familles les plus vulnérables, il n'y a pas de chômage partiel. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans la moindre rémunération. Et finalement, le parrainage, c'est une forme de peut-être une forme de chômage partiel, c'est un moyen de continuer à les aider. Comment concrètement, enfant du Mékong qui agit par le parrainage, comment concrètement ce parrainage aide les familles dans cette période d'instabilité?
C'est une question extrêmement importante que vous venez de poser. Le parrainage existe depuis une soixantaine d'années chez Enfants du Mékong. Et ce qui est incroyable, c'est à quel point il se révèle à chaque fois extrêmement moderne et adaptable. Vous voyez, c'est incroyable parce que on voit l'adaptabilité. On s'appuie sur 950 responsables de programmes asiatiques bénévoles qui distribuent l'argent du parrainage et qui sont capables d'adapter l'utilisation de l'argent du parrainage en fonction du besoin de la situation. Globalement, principalement, l'argent du parrainage, normalement, aide pour l'accessibilité, pour le scolaire, si vous voulez, l'achat d'uniformes, le transport, et effectivement, ça peut être aussi des frais de santé, parfois un petit peu la nutrition pour la famille. On privilégie un parrainage par famille. Là, on a proposé à tous nos responsables de programme qui connaissent parfaitement la situation de ces enfants, parce que un responsable de programme d'enfants du Mékong, c'est en moyenne 25 enfants parrainés. Donc, ils ont une connaissance famille par famille et sont capables d'adapter l'utilisation de l'argent du parrainage famille par famille. Donc, on leur a dit, si nécessaire, vous adaptez aux besoins de nutrition et d'hygiène et de première nécessité, évidemment, sur l'argent du parrainage. Le fait d'être un filleul identifie la famille qui a en besoin pour des distributions et effectivement le fait qu'on centralise sur un parrainage par famille, le parrainage, on sait, aide toute une famille. Bon, grâce à notre réseau pardon, local étendu, ce qu'on peut vous dire, c'est que Enfants du Mékong assure la distribution à plus de 9 programmes sur 10, à 95% de nos programmes. Et on peut allouer de manière différente l'argent du parrainage en ce moment en fonction des besoins du terrain. La dernière chose que je peux vous dire sur le parrainage, c'est qu'au-delà de l'aide matérielle adaptée à la situation du coronavirus et du confinement, le parrainage permet de dire à une famille isolée et confinée en Asie, il y a quelqu'un au bout du monde qui s'intéresse à moi et qui me veut du bien. Vous voyez? Même si la correspondance à votre filleule est plus compliqué en ce moment, évidemment. Cette crise pandémique nous fait travailler sur des leviers beaucoup plus performants. Pour demain, chez Enfants du Mékong, on est en train de réfléchir à des moyens pour que la correspondance soit plus efficiente pour chacun d'entre nous. Mais le fait de dire qu'un parrain ou une marraine en France ou en Europe s'occupe d'une famille en Asie qui est confinée, c'est déjà de lui dire tu as du prix à mes yeux.
Donc les écoles sont quasiment toutes fermées en Asie du Sud-Est, mais le parrainage est finalement utilisé pour sauver des vies en ce moment, puisque ça va permettre aux familles de continuer de se nourrir dans cette période très dure. Et au-delà des enfants et des familles parrainées, l'association, pour rappel, soutient un peu plus de 22 500 familles hein, au travers du parrainage. Au-delà de ce parrainage, je crois qu'Enfants du Mékong a mis en place un projet d'urgence pour soutenir encore d'autres familles qui sont dans le besoin, c'est ça?
Exactement. Notre première, on a raisonné en trois étapes. La première étape, c'était de dire à nos équipes, mettez-vous à l'abri, c'est-à-dire en sécurité et confinés. Ce qu'on a fait autant pour l'équipe d'enfants du Mékong en France qu'en Asie. On a confiné aussi nos volontaires bambous, même s'ils restent à proximité du terrain. La deuxième chose qu'on a dit, c'est est-ce que l'argent du parrainage arrive aux filleuls? Le résultat, on vous l'a dit, 95%, alors que On a plus de la moitié du monde qui est confiné. De l'argent du parrainage arrive à destination. C'est honnêtement exceptionnel l'engagement pour des bénévoles. Troisième chose, c'est la première fois qu'on entend parler autant de famine. C'est un mot qui n'existe pas tant que ça en Asie. On entend des gens qui manquent de quelque chose, mais le mot famine, c'est la première fois qu'on l'entend à ce point-là. Et pour le coup, notre action d'enfant du Mékong est là juste pour répondre aux besoins. Donc on a essayé de mettre en place, grâce à nos bambous, nos volontaires qui sont sur le terrain, qui sont incroyables et édifiants d'engagement en ce moment alors qu'ils sont confinés, et grâce au retour de nos responsables locaux, on a mis en place un plan d'aide rapide pour répondre aux enfants, aux familles qui ont des besoins de première nécessité. La première chose, c'est sur la nutrition en Birmanie, au Cambodge, au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippines, pour du riz, de l'huile, des nouilles instantanées, des produits d'hygiène. Si vous voulez, pour vous donner un indicateur, 50 € permet d'acheter 85 kilos de riz pour nourrir une famille de 4 personnes pendant un mois. On nous a demandé d'acheter 430 tonnes de riz pour 10 000 familles, c'est-à-dire de leur donner entre, finalement, à des familles entre 100 et 200 kilos pour leur permettre une subsistance de 3 à 8 semaines en fonction des situations. Dans l'histoire d'Enfants de Mékong, on n'a jamais acheté autant de riz, si vous voulez. 430 tonnes de riz, je crois que ça remplirait un hangar d'avion.
Et
La
comment
deuxième
sont,
chose.
quel est votre mode opératoire? Quelle est la façon de travailler sur le terrain concrètement pour savoir comment acheminer les denrées, pour quelle famille, comment ça fonctionne?
Alors, Enfants du Mékong ne crée pas mais répond aux besoins. Toute demande vient d'un de nos responsables de programme local. Dès qu'il nous fait part d'un besoin d'une famille d'enfants parrainés, on se dit que s'il y a une famille d'un filleul qui est touchée, les 10 familles autour doivent être dans le même besoin. On n'est pas là pour aider que les familles de filleuls, on est là pour aider tous ceux qui sont les plus nécessiteux. Mais tout part de la famille du filleul. Si une famille d'un filleul est touchée, ça veut dire que 10 autres autour, ça a toujours été notre principe, le principe de 1 pour 10, dans toutes les situations de crise. La deuxième chose, c'est pas de doublons. Vérifier qu'une aide locale n'existe pas. Dans ces situations d'urgence, il peut y avoir des confusions. Et notre objectif est vraiment de vérifier que le gouvernement ou les associations locales n'ont pas déjà apporté leur aide. La troisième chose, c'est en vue de quelque chose de durable. Là, on est dans une logique d'urgence, de permettre à des familles de s'en sortir, et on peut pas, honnêtement, quand on entend des personnes qui n'ont même pas de quoi nourrir leur famille, qui ont besoin simplement de riz, on ne peut pas ne rien faire, même quand on est une association de compassion et d'éducation. On se doit de répondre. Mais on peut se dire, tiens, s'il y a une famille à côté, dans un village, qui meurt de faim et qu'on va aider, est-ce que à terme, on peut pas essayer de scolariser l'enfant qui est de cette famille pour qu'il puisse avoir un avenir? Et si cet enfant a un avenir, il pourra s'occuper de toute cette famille. Vous voyez, c'est
Ouais,
limite de
je crois
dire.
que vous avez notamment un principe fort qui est que on n'est pas là pour là dans cette période d'urgence on donne du poisson, mais que notre travail c'est d'abord de les apprendre à pêcher, c'est ça?
C'est exactement ça. Voilà. D'abord, là, il y a un besoin de poisson, donc on est obligé d'y répondre à cause de la pandémie et du confinement. Mais notre objectif, c'est de regarder si on peut pas effectivement parrainer des enfants pour qu'ils puissent aller à l'école, effectivement pour rejoindre l'expression que vous venez de dire, pour leur apprendre à pêcher.
Donc, dans cette situation d'urgence, pour récapituler, avec 50 € on achète à peu près 85 kilos de riz, qui permet à une famille de 4 personnes de se nourrir pendant un mois, plus des légumes, etc. Donc ça, c'est vraiment très concret et c'est vraiment le projet d'urgence qui va durer quelques semaines. Et puis vous anticipez déjà une deuxième phase parce que bah, une fois que on espère tous les pays se seront déconfinés, que le virus va peut-être être limité, être réduit, vous anticipez une deuxième phase parce que ces familles qui vivaient de l'économie informelle, hein, de petits boulots, ça va être dur de reprendre l'activité.
Exactement. Donc c'est ce qu'on appelle, donc là la première phase c'est d'aider les familles qui sont en mode survie, hein. Et la deuxième chose c'est de d'aider après certaines qui ont perdu, dont les parents ont perdu leur emploi, les aider à se remettre en selle. Voilà, c'est ce qu'on appelle nous une dotation ou des kits de réinstallation pour des familles qui ont été touchées. Vous voyez, le kit de réinstallation, ça peut être il peut se traduire pour nous par une dotation de 500 € pour les familles qui ont été touchées et qui ont besoin simplement cette somme, qui peut être soit un besoin de trésorerie de 2 mois ou 3 mois, ça peut représenter 3 mois de trésorerie pour un chauffeur de taxi pour pouvoir refaire le plein d'essence de sa moto pour repartir dans son activité économique. Vous imaginez 500 € pour se relancer, pour renourrir toute sa famille. Voilà. Ça peut être relancer une économie domestique pour acheter un cochon et 10 poules. Voilà, pour avoir de quoi se nourrir un peu plus durablement et relancer une petite économie domestique. Ça peut être un kit de réinstallation, je sais pas, pour acheter des Tupperware, les premiers produits d'hygiène pour relancer la vie de famille. Voilà, ce kit de réinstallation s'adaptera en fonction des cultures, des pays et des situations. Ce dont on est sûr, c'est que une somme de 500 € correspond en général aux besoins de première nécessité, donc on sera entre 300 et 1 000 € par famille, et on estime qu'on pourrait aider, on estime des besoins qui nous sont remontés autour de 200 familles qui pourraient bénéficier de cette aide à la relance, voilà. Donc ça
Merci
représente un
beaucoup.
plan d'action de, vous voyez, de 600 000 € à notre petite échelle, ce qui est énorme pour 10 000 familles aidées. Vous voyez, donc si le Covid ne touche pas peut-être en direct des personnes, tant mieux. En Asie, le confinement touche énormément de familles pauvres.
Merci Guillaume pour toutes ces explications. Donc merci à toutes les fondations, les entreprises et les particuliers qui ont déjà répondu à cet appel et qui nous ont permis déjà d'envoyer pas mal d'argent sur le terrain pour nourrir des familles. Si vous souhaitez soutenir, vous pourrez cliquer sur le lien et le faire directement, et vous pouvez bien sûr transférer à d'autres fondations ou entreprises ou particuliers qui pourraient être intéressés. Merci à tous les parrains qui continuent à être fidèles à l'association dans cette période difficile. Guillaume, est-ce que tu as un dernier message à faire passer?
Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est merci d'abord à tous nos parrains et marraines, parce que votre parrainage a encore plus de valeur qu'avant. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Et la deuxième chose, c'est, comme d'habitude, si vous connaissez quelqu'un qui a envie de soutenir et d'aider, tout le monde a envie d'agir concrètement, mais 1 kilo de riz, c'est pas grand-chose. On a besoin de petits soutiens. Ça peut commencer par 10 euros et c'est déjà énormissime pour soutenir ces familles. Merci de votre soutien, de votre fidélité, et c'est avec des petites actions qu'on fait des grandes choses.